West.
Cop West.
Chaque lundi et jeudi à 20h
avec Simon Rongoat.
Bonsoir les amis, on va parler foot jusqu'à 20h15, vous en avez l'habitude, on est dans l'avant-match le jeudi et notamment de ce derby entre le Stade Rennais et le Stade Brestois au Roazhon Park dimanche. Un expert des deux équipes nous rejoindra dans quelques instants, Frédéric Happe, journaliste à l'AFP. L'enjeu est déterminant pour la course à l'Europe, à la Ligue Europa côté Rennais, comme pour la course à la Ligue des Champions pour le Stade Brestois. Un coup d'œil également sur le résultat du FC Lorient hier soir, on écoutera Régis Lebris après la défaite face au Paris Saint-Germain qui complique encore un peu la situation des Merlus. Enfin, un coup d'œil tient sur la Youth League. Petit débrief de la Youth League des Canaries. Le FC Nantes qui va jouer un match hyper important demain soir à Montpellier. Quelles sont les futures pépites du FC Nantes qui ont participé à cette épopée en Youth League, demi-finale de la Ligue des Champions des Jeunes? On écoutera Jean-Marcel Boudard nous en parler. C'est parti.
Chaque lundi et jeudi,
c'est Cop West sur It West.
On commence avec ce derby que tout le monde attend, derby breton au Roazhon Park entre le Stade Rennais et le Stade Brestois avec Frédéric Happe, journaliste à l'AFP. Bonsoir Fred.
Bonsoir Simon.
On va commencer, cher Fred, avec sans doute le club que l'on attend le plus sur cette fin de saison, le Stade Rennais qui doit finir en trombe pour glaner une nouvelle place européenne cette saison. Rennes s'est bien refait avec le succès 3-0 à Nantes après 4 défaites consécutives. Est-ce que tu penses que le succès à Nantes a remis les rouges et noirs sur les rails et qu'ils sont partis pleine balle pour la fin de saison ?
Je pense qu'il aura au moins évité une sortie de route définitive. Quant à savoir s'ils sont vraiment à nouveau dans la course, il n'y a que le match contre Brest qui pourra nous le dire. Sans vouloir faire offense au FC Nantes, la faiblesse de l'opposition fait que le 3-0 a peut-être pas la même saveur qu'il aurait eu d'autres années. En tout cas, pour eux, ils s'évitent le pire et ils se sont donné le droit d'y croire un match de plus au moins.
Les Rennais ne t'ont pas complètement convaincu sur cette deuxième période où ils sont allés gagner face à des Canaries qui avaient bien résisté jusque-là. J'ai vu, moi, des joueurs... et les buteurs notamment, reprendre confiance aussi.
Oui, non, il y a eu du mieux, c'est certain, mais il faut dire qu'on partait de extrêmement bas lorsqu'on voyait les prestations face à Strasbourg ou à Toulouse. Donc c'est certain qu'il y a eu du mieux et qu'on a retrouvé certaines valeurs du côté de Rennes qui a contrôlé tout le match. Ce qui me laisse un peu sur ma faim, c'est qu'on a quand même eu le sentiment que Nantes, mis à part la tête de Mostafa Mohamed sur corner, a un petit peu baissé les bras comme ça lui arrive souvent lorsqu'il est mené. Et que il y a quand même énormément de naïveté sur les buts lorsqu'on les analyse, même le premier. Voilà, Rennes a été efficace, Rennes a capitalisé sur ses temps forts, c'est très bien. Mais encore une fois, moi je pense que le niveau de Brest qui arrive est tellement plus élevé que ce que Nantes a proposé que c'est seulement à ce moment-là qu'on saura si vraiment Rennes est dans la course ou pas.
Est-ce que le coup de gueule poussé par le président Cloarec à l'issue de la défaite à domicile face à Toulouse a pu porter ses fruits aussi ? Est-ce que les Rennais ont réalisé qu'ils pouvaient tout gâcher là ?
J'ai envie de te dire que j'espère qu'ils n'avaient pas besoin de ça pour s'en rendre compte. Parce que dans ce cas-là c'est grave, c'est quand même des footballeurs professionnels, ils connaissent les enjeux, c'est même leur carrière à eux qui est en jeu. Donc s'ils ont besoin qu'on leur réexplique par A plus B pourquoi c'est important d'être européen et pourquoi ils n'y arriveront pas en jouant comme contre Strasbourg ou Toulouse, je sais pas, qu'ils aillent jouer à un autre niveau. Donc je pense qu'il y avait besoin effectivement que quelqu'un ait un discours très clair au sein du club, parce qu'il y a eu une tendance à un petit peu banaliser, on va dire, les mauvaises prestations jusqu'à Toulouse, jusqu'au moment où finalement au niveau comptable c'est devenu très compliqué pour la course à l'Europe. Et donc peut-être qu'il y avait besoin que quelqu'un et au sein du club ce discours, mais j'espère que les joueurs à l'intérieur le savaient avant qu'on le leur dise.
Le calendrier, ça vaut ce que ça vaut, je te vois venir Fred en fin de saison, mais quand même Rennes-Brest, ensuite Metz-Rennes, donc déplacement chez des Messins qui vont mieux mais qui restent quand même une équipe de bas de tableau. La réception de Lens et un déplacement à Reims, c'est pas insurmontable. D'ailleurs on a un excellent confrère Philippe Audouin qui a demandé à Julien Stéphan à l'issue de la rencontre à Nantes si c'était possible de faire 4 sur 4 et d'aller gratter une belle place européenne. Écoutez la réponse du coach.
Moi je vais me concentrer sur la préparation du match de Brest. Ce groupe est tellement surprenant que je peux pas te dire, j'en sais rien. Voilà, je vais être très honnête, j'en sais rien. Et préférer me concentrer plutôt que de spéculer sur les 4 derniers matchs, se concentrer sur déjà l'analyse de celui-ci, et puis ensuite sur la projection du match de Brest, qui sera un gros rendez-vous, qui est un gros morceau, qui fait une magnifique saison, qui postule à la Ligue des Champions. Donc voilà, on va rencontrer un adversaire de très haut niveau.
Le révélateur brestois, on va évoquer ce derby côté brestois dans un instant, mais pour finir sur les rouges et noirs, c'est vrai que si Rennes ambitionne d'être européen, il faut faire quelque chose face à ces brestois, il n'y a pas photo.
De toute façon, je pense que s'ils veulent être européens, s'ils veulent avoir la certitude d'être européens, il faudra, ça passera par un 4 sur 4 ou aller, on va dire, au moins 10 points sur les 12 possibles sur la fin de saison. Et donc, il faudra sortir 4 grosses performances, ça, ça fait aucun doute. Je pense aussi qu'avec, si on retrouve l'équipe de février, janvier-février, je pense que c'est faisable, parce qu'effectivement, les adversaires sont à leur portée, surtout avec l'avantage du terrain face à Lens, par exemple. Donc, je pense que c'est pas irréaliste. Maintenant, qu'un entraîneur dise que lui-même ne sait pas si son équipe sera capable de le faire ou pas, c'est déjà assez stupéfiant en soi. Et donc, si lui ne le sait pas, bah, moi, je ne peux pas te le dire non plus.
Côté brestois, cette fois, Fred, parce que je sais que tu suis attentivement aussi les performances du SB 29, on marque un peu le pas en ce moment, deux défaites consécutives. Et puis, si on regarde un peu plus largement, ça avait été déjà très difficile de gagner à Lorient sur un coup de dé en fin de rencontre. On a l'impression que les Brestois tirent un peu la langue.
Oui, même contre Metz, où ils avaient mené 4-1, mais Metz était revenu à 4-3 et ça n'avait pas été très très serein la fin de match côté Brest. Donc effectivement, mathématiquement, c'est indéniable. Brest, le compteur tourne moins vite. Est-ce qu'il risque d'être gagné par une certaine nervosité? Ce sera l'un des enjeux aussi de ce match contre Rennes, sachant que je pense que Brest a un profil typique pour gêner Rennes, avec un gros impact physique, un très bon jeu aérien, beaucoup de force dans les duels. Donc voilà, mais Brest, ce sera aussi un moment de vérité pour eux aussi quant à leurs espoirs sur cette fin de saison.
L'aspect psychologique, il se joue par rapport au classement, tu l'as évoqué, ça peut mettre la pression. Il y a un deuxième élément dont je voulais parler avec toi, c'est celui du stade, parce qu'on parle beaucoup depuis le début de la semaine de l'impossibilité juridique, administrative du stade brestois d'accueillir une rencontre européenne à domicile, parce qu'il n'y a que 5000 places qui ne sont pas en tribune tubulaire, donc validées par l'UEFA, et 5000 places seulement validées par l'UEFA, ça n'entre pas dans les critères UEFA qui demandent 8000 places pour accueillir une rencontre européenne. Ça veut dire que s'ils n'obtiennent pas de dérogation, c'est ce qu'ils vont demander jusqu'au bout, mais s'ils n'en obtiennent pas, il faudra aller jouer ailleurs la Coupe d'Europe. Est-ce que tu as des infos sur le sujet, différentes de celles que je viens de donner? Est-ce que tu penses que psychologiquement aussi, c'est encore un autre facteur qui vient perturber la fin de saison?
Je pense que c'est plus au niveau des dirigeants, oui, pas forcément des joueurs, parce que les joueurs, eux, quelque part, enfin, je l'espérais aussi, garde en tête que finalement, et comme l'a dit Eric Roy en conférence de presse après Monaco, l'anomalie, c'est pas que Monaco batte Brest, c'est que Brest soit à la lutte avec Monaco à la 31e journée pour une place en Ligue des Champions. Donc je pense qu'ils ont ça en tête et qu'ils n'ont pas pris le melon et que donc ils savent que leur place n'est pas forcément à ce niveau-là régulièrement. Maintenant, c'est vrai que si Brest venait à devoir jouer ailleurs qu'à Francis Leblay, ce serait problématique non seulement pour les supporters pour le déplacement, mais évidemment pour le club d'abord une perte financière et puis voilà.
Ce serait hyper dommage que l'année où Brest est européen, tu ne puisses pas jouer à la maison parce que ça n'arrivera
absolument,
pas.
Mais il faut rappeler qu'ils ont déjà une dérogation pour jouer en Ligue 1 à Francis Leblay. Donc je veux dire, on peut comprendre que l'UEFA soit encore plus regardante et que ce soit donc pas possible. Ils ont, de ce que j'ai compris, mais l'UEFA n'a pas été super clair là-dessus, ils leur proposent une dérogation pour jouer à Leblay devant 5000 personnes. Donc effectivement, la barrière des 8000, qui est normalement le minimum, serait effacée. Ou jouer ailleurs. Mais jouer ailleurs, la question ce sera où. Et il n'y a pas 10000 solutions. À Rennes, si Rennes est européen, ça paraît impossible. Il y aurait peut-être le Roudourou qui a accueilli des matchs européens. Peut-être qu'il est...
La rivalité avec Guingamp, ça paraît difficile. Hein.
Et il y aurait Lorient, mais pareil, en termes de rivalité...
Elle est plus récente, mais elle existe aussi. Ouais. C'est plus logique pour moi, Lorient, non?
Et
Nantes, c'est trop loin. Voilà.
Bah non, c'est très très loin. Donc les solutions de repli ne sont pas non plus légion. Donc voilà, c'est l'une des questions qui agitera certainement Brest s'ils vont au bout, mais là logiquement ils devraient quand même être dans les 6 premiers, voire les 7 premiers sans trop de problèmes.
Il y a ce derby face à Rennes, au Roazhon Park, il y aura ensuite la réception de Nantes puis de Reims et un déplacement à Toulouse. Le calendrier semble accessible pour les Brestois par rapport à ce jeu qu'ils continuent de produire, même si les résultats ne sont pas là. On rappelle qu'il manquait Lesmelou, la pierre angulaire du milieu de terrain. Franchement, il y a...
Et Brassier en défense.
Et Brassier en défense. Non mais, c'est ce qui nous fait dire que Brest a encore une belle carte à jouer avec un calendrier comme ça.
Oui, tout à fait. C'est pour ça que je n'ai pas senti d'inquiétude particulière chez Eric Roy non plus sur cette mauvaise passe. Un peu comme en début de saison, ils avaient eu 7 matchs où ça avait été très compliqué avec 4 défaites. Il sait que c'est aussi les calendriers. Aller à Lens, c'est pas simple. Aller à Lyon, c'est pas simple. Recevoir Monaco, c'est pas simple. Donc c'est vrai que voilà, il n'y a pas eu les performances auxquelles on a été habitué. Mais en soi, on ne peut pas dire que Brest soit complètement à la la rue. Et on sent les joueurs encore très très concernés et très motivés. Là, je pense que pendant 4 matchs, ils vont serrer les dents. Mais c'est sûr qu'une défaite à Rennes pourrait encore entamer un peu plus la jolie dynamique brestoise. Et là, ce serait une vraie question, comment ils vont finir la saison. Même s'ils sont, encore une fois, une marge pour finir même dans les 4 premiers, je pense que ça devrait passer.
Ouais, on leur souhaite. Parce que les 4 premiers, ça veut dire Ligue des Champions pour les 3 premiers ou tour préliminaire de Ligue des Champions avec un barrage à jouer pour le SB 29 s'il termine 4e. De Ligue des Champions, ce serait exceptionnel. Merci beaucoup Frédéric Happ de ton expertise sur ce derby. Hein, et on va suivre ça de très très près. Ce sera dimanche à 17h05 sur Rennes-Brest. Salut Fred.
À bientôt.
Allez, on débriefe maintenant la défaite des Merlus. Nouveau revers pour les Morbihanais face au Paris Saint-Germain. En match en retard hier soir grâce notamment côté parisien au talent d'Ousmane Dembélé, de Kylian Mbappé. 2 buts chacun, 4-1 pour les Parisiens. Il n'y avait rien à faire face à ces individualités. Dans le jeu, j'ai trouvé Lorient beaucoup plus consistant que lors de la dernière prestation à Nice et cette défaite 3-0 de vendredi dernier. Au classement, ça reste une très mauvaise opération pour les Lorientais qui sont à égalité de match avec les autres et désormais 2 points derrière le Havre, le barragiste, et 3 points derrière Metz, le premier non relégable, 5 points derrière le football club de Nantes. Écoutez Régis Lebris parler de la prestation de ses joueurs après le match.
Il n'y a pas de déception vis-à-vis de la manière dont on a abordé le match, l'énergie qu'on a mis dedans. Je crois que cette première mi-temps notamment était plutôt intéressante de ce point de vue-là. On a une première occasion, Kéman, qu'on aurait eu la bonne idée de conclure parce qu'on sait que face à ce type d'équipe, on a peu d'occasions et il faut être chirurgical. On a manqué un peu de caractère, du petit plus qui fait qu'on peut aller plus loin dans ce type de match. Et en même temps, on doit accepter la supériorité parisienne sur notamment ces individus. À 2 des tout meilleurs joueurs du monde sur le terrain, vous faites sanctionner et puis vous devez juste constater qu'ils sont meilleurs.
Lorient qui recevra à Toulouse dimanche à 15h. Le Football Club de Nantes est à Montpellier dès demain soir. Les Canaries qui jouent leur vie très concrètement avec le calendrier qui les attend ensuite. Montpellier est la dernière équipe accessible de son championnat pour le FC Nantes parce qu'ensuite, je vous le dis, ce sera Monaco, Lille et Brest pour le FCN qui va devoir ramener quelque chose de ce déplacement à Montpellier. L'un des autres enseignements de la semaine, c'était le retour des jeunes de la Youth League. La Ligue des champions des U19, les Canaries sont allés jusqu'en demi-finale. Seul le PSG avait réussi ça depuis l'existence de cette Youth League. Quels sont les jeunes Canaries qui pourraient, dans les prochaines années, montrer le bout de leur nez avec les pros et réussir sous le maillot du FC Nantes? Écoutez un spécialiste, notre confrère d'Ouest France, Jean-Marcel Boudard, dans le podcast Sans Contrôle.
On avait déjà 3 de cette génération-là qui sont déjà intégrés dans le groupe pro, qui sont connus. Alors, Bassem Piou, qui lui est en reprise suite à une opération du ménisque, mais qui vient de changer d'agent et de passer dans l'écurie de George Mendes à 1 an de la fin de contrat, donc on ne sait pas s'il ne prolonge pas, s'il ne sera pas vendu cet été. Après, vous avez Nathan Zézé, que tout le monde a découvert au moins cette année, qui s'est installé dans le groupe pro sous Jocelyn Gourvennec et qui a une dizaine de matchs en Ligue 1 aujourd'hui. Et puis Strader Apois, qui est un 2004, qui est un peu plus âgé, qui lui aussi fait partie du groupe pro.
Ceux-là, on les connaît. Les autres?
Herba Girassi, qui est un petit ailier qui a été formé à Angers. Louis Leroux, qui est un milieu de terrain dont on a beaucoup parlé, puisqu'il a été à la fois décisif, mais il s'est aussi révélé dans cette compétition-là, qui est beaucoup sollicité aujourd'hui, notamment. Demen Tabibou, qui était déjà dans le groupe pro depuis janvier, intégré par Jocelyn Gourvennec. Enzo Mongo, qui lui est passé pro aussi, qui a un même contrat pro que Demen Tabibou, qui est passé pro avant sa blessure au genou. Alors malheureusement, il doit se faire opérer.
Il s'est fait les croisés. Hein,
voilà, il était du voyage à Nyon, il doit se faire opérer 7 semaines des croisés. Et puis le petit dernier qui est Malang Gomez, milieu récupérateur. Voilà, ça fait partie des joueurs les plus en vue. Après, on a eu aussi des bonnes surprises sur la compétition. Luca Gauthier, le petit latéral gauche. S'il y en a un pour qui la compétition a vraiment changé le destin et le regard, c'est Tom Mabon, un poste de gardien qui était un peu déserté.
Voilà, vous avez noté le nom de quelques-uns de ces joueurs que l'on espère un jour sous le maillot des Canaries dans quelques années. En Ligue 1 aussi, on l'espère pour cela. Le FC Nantes, les pros doivent ramener absolument quelque chose de ce déplacement à Montpellier. C'est demain soir le débrief. Ce sera lundi avec Catel aux manettes. Salut!
Retrouvez demain matin votre émission Cop West en replay sur itwest.com et sur l'application It West. Cop West est votre émission. Prenez la parole et posez vos questions aux pros de la saison. Sur It West.